L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le 100.4 FM de Transistor et parfois sur le DAB+ de BOA, la radio numérique régionale. Vous êtes en direct avec nous de midi jusqu'à 13h et aussi en rediffusion le soir même à 18h et bien entendu sur internet à transistor.bzh et ce pour l'éternité. Alors le vendredi dans l'EM, on parle souvent des arts, du patrimoine et du spectacle. C'est un peu déjà le week-end avant l'heure et pendant qu'on pense à ne rien faire, les compagnies des arts et spectacles, eh ben, elles travaillent dur pour qu'on se repose. Et ça faisait donc longtemps que la compagnie Méharé de Brasparts n'était pas venue au studio. Ben, vous l'avez entendu, elle a toussé tout à l'heure pendant le générique. Ça fait partie des aléas. Je reçois Emmanuela Nelly, vous êtes chorégraphe, danseuse et réalisatrice. Bonjour Emmanuela.
Bonjour.
Et puis il y a aussi Alain Mahé qui est avec nous, donc votre truc à vous dans la compagnie, c'est la musique. Bonjour Alain.
Oui, salut.
Comment ça va?
Ben écoute, ça va pas mal.
Pas trop mal pour un vendredi?
Ça brume.
Ça brume. Une belle brume d'automne.
Ouais. On va donc parler de deux projets, hein, le projet Baraka qui est une production sonore et visuelle et puis aussi le projet La Baraque, alors c'est quasiment le même nom mais ça n'a rien à voir. C'est un projet qui est en cours de construction, c'est super mystérieux et j'espère que nos invités vont tout nous dire mais ça m'étonnerait. Je sens qu'ils vont regarder sous la pédale. Mais on va quand même commencer par parler un petit peu des origines de la compagnie, on va la présenter. Alors c'est quoi Méharé et qu'est-ce qui vous a inspiré à la créer ?
Méharé, c'est le nom d'un livre de Théodore Monod, dont on a repris le titre pour lui donner le nom de notre association compagnie. Peut-être Emmanuela, on peut en dire.
Ouais, c'était en 2003 déjà, et c'était pour la création d'un premier spectacle. Avec donc une coopérative de tisseuses, la coopérative Nakasha de la bidonville de Salé au Maroc. Donc c'était une coopérative où les femmes travaillaient, donc le tissage c'était un endroit d'alphabétisation aussi pour les femmes, d'un travail pour les femmes aussi. Et la caractéristique aussi c'était que donc elles tissaient des tapis bécharouette qui sont faits avec des tissus de récupération en fait, des usines. Et normalement, c'est des tapis qui sont mis type paillasson, enfin, qui sont vraiment derniers. Voilà, ne sont pas très importants, mais en fait, elle construisait ces tissages pour les mettre, pour l'accrocher au mur, comme des tableaux. Et en fait, ça leur permettait aussi de raconter pas mal de choses, des histoires, des... Et donc c'était de vraies créations en même temps. Et donc on a fait tout un travail avec elle. Et au résultat, il y avait. Donc on était au Maroc pendant pas mal de temps. Et au final, il y avait deux métiers à tisser traditionnels sur scène, qui étaient utilisés aussi comme un instrument de musique. Et puis deux danseurs marocains, les sept tisseuses magnifiques de la coopérative. Moi-même et Carole Bonneau, une autre. Danseuse, donc plutôt occidentale, on va dire européenne. Et puis donc Alain Mahé à la musique, et puis Gaëtan Bénard qui était vidéaste en fait à l'image. Donc c'était déjà d'emblée, je parle de ça parce que c'est un peu la base un peu de Méharé, je dirais, un travail artistique, souvent multidisciplinaire aussi. Mais où chaque élément, chaque personne qui rentre dans ces projets, ces aventures, ils sont réunis pour un fond, une base, des questionnements sociaux, politiques, humains, qui nous attrapent et qu'on a envie de chercher et d'amener loin, ensemble. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment de frontières entre... différentes médias et personnes, quoi. Voilà, et c'est un peu la caractéristique, je dirais, de Méharé depuis donc ses débuts jusqu'à maintenant.
Alors comment ça a évolué tout ça justement depuis donc de 2003 jusqu'en 2024, ça fait 21 ans, ouais. Curé. Comment ça a évolué?
Est-ce que c'est une évolution?
Ouais, est-ce qu'il y en a eu une? Est-ce que...
On est passé par pas mal de pays. Enfin, on a... Bon, la première tentative à Salé au Maroc. Ensuite, la deuxième pièce, en fait, était chilienne, on pourrait dire. On a beaucoup travaillé au Chili. On a été un peu chercher l'histoire du Chili à partir d'Allende jusqu'à maintenant. On a travaillé avec les Mapuches, le peuple Mapuche qui est un peuple du sud du Chili. On a même participé provoqué le premier festival pour l'autonomie du peuple Mapuche. Voilà.
En fait, c'est vrai que depuis le début, on a, je ne sais pas si on a évolué. Moi, j'ai l'impression parfois qu'on tire toujours le même fil, justement, oui, par rapport à des questions diverses. Et par contre, c'est vrai que dans la maille comme ça, il y a pas mal de rencontres et des questions qui se croisent, des pays, des choses que nous apprenons aussi beaucoup. Il y a pas mal de temps dans chaque création, c'est vrai qu'on prenne pas mal de temps pour essayer de connaître aussi un peu plus. On part pas vraiment d'une idée ou d'un concept, je dirais pas du tout.
Bon, et vous
c'est
êtes...
plutôt... Ouais.
Ouais, ouais. Et vous êtes du coup implanté à Brasparts. Est-ce que c'était une volonté de votre part ou c'est plutôt le fruit du hasard ou peut-être même que vous êtes natif, peut-être l'un ou l'autre de Brasparts?
En fait, il y a un parcours, parce que c'est vrai qu'au départ, donc l'association était basée en Île-de-France, il a eu tout ce parcours entre le Maroc, le Chili et pas mal d'endroits en France aussi. Mais après, mais pendant toutes ces périodes, déjà, on venait à Brasparts, oui, plutôt pour un endroit de recherche, de travail.
Oui, au Doulven, enfin entre Le Fou et Brasparts, en fait. Parce que c'est une maison qui était, en fait, à moitié, qui appartenait pour moitié à mon grand-père jusqu'à la 9e poutre.
Okay.
Exactement.
Ah bon, c'est vrai.
C'est-à-dire qu'il pouvait rentrer, mais pas monter à l'étage, et son cousin, l'inverse. Non, donc c'était complexe au départ, mais voilà. Enfin, c'est un peu anecdotique que ça, mais c'est un peu aussi l'histoire des familles, des monts d'arrêt, qui étaient très nombreux, donc ils partageaient beaucoup les terres et les maisons, voilà.
Alors, on sait que dans les Monts d'Arrée, il y a beaucoup de folklore, hein. Il y a d'autres compagnies qui sont de Brasparts, qui sont déjà venues nous voir, et puis on sait que c'est un endroit qui interpelle, qui questionne beaucoup, et puis qui laisse beaucoup l'imaginaire travailler. Est-ce que c'est aussi un petit peu votre cas? Est-ce que les Monts d'Arrée ont aussi influencé votre travail?
Ça, c'est, pour moi en tout cas, c'est certes, parce que je pense qu'il n'y a pas, en tout cas pour moi, de différence d'approche, mais je me sens autant étrangère à Salé au Maroc comme à Valparaiso, au Chili ou chez les Mapuches, que dans les Monts d'Arrée, enfin c'est très très loin. Voilà, c'est déjà la langue bretonne, enfin, il faut la connaître, comme le Bampudungun ou comme le voilà, d'autres langues, comme l'arabe ou le berbère, enfin, il y a plein de langues. Et d'ailleurs, enfin, voilà, donc mais c'est sûr que c'est un endroit qui nous a interpellés du départ. En tout cas, pour moi, ça ouvre, oui, c'est certes.
Le côté, Monts d'Arrée, moi, je le connais depuis très jeune, en fait. Après, de manière aléatoire, et par moments je venais, d'autres je venais pas. Mais c'est un endroit qui m'a fasciné très jeune. Hein. Je me suis baladé beaucoup. Je connaissais du monde, pas du monde. J'ai traîné dans les bistrots. Plus que mon compte. J'ai rencontré des personnes très particulières, aussi bien d'ailleurs des paysans que des peintres ou des gens qui font de la photo ou du... Enfin, je parle là des années 80-90. C'était aussi très riche, et maintenant c'est encore plus riche, je dirais. Il y a plus de monde, plus de possibilités, toujours autant d'associations, et ça c'est énorme. Mais c'est toujours une zone blanche.
Ouais, c'est toujours une zone blanche.
Ouais, exactement.
Mais c'est vraiment, ouais, c'est vrai, comme vous dites, c'est vraiment une zone très riche. Et justement, est-ce que Méharé participe à avoir des interactions avec la communauté, est-ce que vous impliquez les habitants d'une manière ou d'une autre, par exemple, dans vos projets?
Ah, je pense que... Enfin, j'espère que oui, mais semble que oui. En tout cas, depuis le début, c'était toujours, on essayait toujours de construire, de collaborer avec les associations locales, avec les personnes, avec les artistes, les artisans. Enfin, c'était tout, les écoles, pas mal. Enfin, c'est vrai que depuis qu'on est là, on intervient tous les deux, moi de manière peut-être plus assidue, mais en tout cas, au sein des écoles primaires comme au collège, par exemple. Il y a pas mal dans les collectifs, enfin tout ça s'est construit, et c'est même ça nous paraît même nécessaire et fondamental, en fait, de construire avec les structures. Il y a vraiment des liens à faire, et chacun, enfin, c'est la force un peu d'ici, justement, chacun apporte sa propre couleur au savoir-faire, si on peut dire, ou approche, ou pensée, et puis ça se construit ensemble, je trouve.
Oui.
Alors justement, vous avez un projet qui est en cours, qui s'appelle le projet Baraka. Alors c'est quoi le projet Baraka, et encore une fois, qu'est-ce qui vous a inspiré à lancer ce projet?
Baraka, c'est un nom italien, Alain, tu pourras...
Ah oui, ça veut dire baraque.
C'est un rapport avec le second projet ou pas?
C'est un hasard heureux, je dirais.
Ah ouais,
En fait,
un signe.
En fait, oui, c'est ça, j'avais été présenté Baraka à Rennes, et on m'avait dit qu'en fait, la baraque Dromesco... était disponible, parce qu'en fait Dromesco arrêtait, Cirque Dromesco, Théâtre Dromesco arrêtait, donc voilà, on pouvait, enfin Igor du Théâtre Dromesco m'a proposé la baraque, en fait, la baraque Dromesco, et j'ai dit, on a réfléchi un petit peu quand même, parce que c'est un bon bâtiment de 10 mètres sur 20, 6 mètres au faîtage, de l'amener dans les Monts d'Arrée, voilà.
Mais
attendez, comment ça veut dire quoi, l'amener? Ça veut dire que...
C'est une baraque foraine, donc qui s'est déplacée dans toute l'Europe pendant une trentaine d'années. Je dérive, parce qu'on parlait de baraka et on parle de baraque, mais elle est dans les Monts d'Arrée, et on va tenter quelque chose avec.
On en reparlera.
Voilà.
Donc finalement, mais cette fameuse baraque, vous l'avez prise.
Oui.
Et donc on va revenir au projet baraka.
Oui. Parce qu'elle va accueillir baraka.
Baraka, voilà.
Elle va accueillir baraka. Baraka, c'est le lien.
En fait, ça a à voir aussi pour, parce que la baraka, il y a, je raconte souvent, il y a une expression en italien. On dit fare baracca e burattini. En italien, ça veut dire faire baraque et, si on veut dire, marionnette. Enfin, ça veut rien dire si on traduit comme ça. Mais en fait, c'est parce que les marionnettes autrefois, qui ont donc une origine très très lointaine, enfin en Italie c'est vraiment très très loin, et il y a des marionnettes très diverses selon les régions en Italie. Mais quand on parle, pour moi en tout cas, de marionnettes, je suis plus liée aux marionnettes qui sont au coin de l'Emilia-Romagne, Bologne, tout ça. Et il y avait, donc normalement les marionnettes, c'était des petits baraques, donc petits caissons qui se déplaçaient de village en village. Et il y avait donc des spectacles avec ces marionnettes gérées à la main, ou des personnes assez simples souvent. Et là, moi je m'inspire souvent de Fagiolino, qui était une personne simple aussi du peuple, qui parlait... et qui disait un peu ce qui se passait réellement, sans trop, enfin, de manière naïve, mais en même temps, un peu, en essayant quand même de dire un peu qu'est-ce qui va pas ou qu'est-ce qui va. Et donc, souvent, voilà, il y avait un rôle aussi politique assez, assez oui. important. Et c'était vraiment donc des baraques en bois là aussi avec des bancs, des petits comme des flyers de l'époque à 1500, je sais pas si on peut dire les flyers, mais enfin des papiers ou des choses. Et un jour, il semblerait que dans un village, ils sont arrivés et ils ont fait leur spectacle, sauf qu'ils ont dit des choses peut-être un peu trop fortes. Donc les gens du village, ils ont pris la baraque et les bourratines, donc les marionnettes, et ils ont jeté tout, plac, au fleuve. Donc à partir de là, c'est pour dire quand on fait tabula rasa, ou quand on veut tout recommencer, etc., on dit faire baraque, bourratine, je veux dire là, on recommence. Et c'est, donc c'était un peu dans l'idée, parce que derrière baraka, où il y a aussi, ça sonne un peu la baraka, que moi j'ai entendu justement sur les... sur les côtes du Maroc, à Essaouira, quand on regarde la mer et la puissance de la mer, je me rappelle toujours une femme, elle disait la baraka, baraka. Pas vraiment la chance, mais quelque chose de puissant. Est-ce que ça, ça peut aider? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et c'est vrai qu'en ces moments, contexte actuel, politique, humain, mondial, de l'environnement, tout ce que, enfin, qui est un peu lourd.
C'est chiant, on peut dire.
Donc il y a des choses qui nous pèsent et qu'on a envie peut-être de, aussi nous aussi comme d'autres, d'essayer de pousser pour essayer de mettre peut-être du bon sens ou de raisonner ensemble, ou de lancer. Donc voilà, c'est une baraka. Donc voilà, on est arrivé à ce projet qui est centré fondamentalement sur quelque chose qui est finalement fil conducteur de Méharé, mais un peu plus spécifique, la nécessité de la diversité du vivant dans toutes ses formes. Ça, c'est un peu le centre. Donc le vivant, ça veut dire les êtres humains, mais ça veut dire humain, mais ça veut dire tout ce qui est vie, qui vivent sur Terre. On est allé voir, du coup, pour Baraka, des chercheurs de la station biologique de Roscoff, qui nous ont accueillis avec vraiment c'est un lieu assez incroyable, avec des chercheurs et des marins, toute une équipe, en fait, qui est assez impressionnante. La station biologique de Roscoff, qui a une histoire très impressionnante aussi, de l'engagement aussi, de la connaissance scientifique en France et au niveau mondial. Et c'est des chercheurs qui sont, nous on est allé voir spécifiquement plutôt des chercheurs liés à la recherche autour des planctons et aussi de macro-algues et de l'évolution. Mmh. Et en particulier Myriam Valero et Christophe Detombe qui sont, et puis il y a toute une équipe là-bas, on a fait des sorties en mer avec les marins plongeurs aussi pour essayer de comprendre, parce que nous on avait un peu le doute. Voilà, qui est à l'origine, enfin... On dit le plancton les algues sont à l'origine de la vie sur la planète Terre. Et donc on a essayé de chercher autour de ça et de voir, mais en fait, quand on parle de biodiversité, est-ce que finalement c'est nécessaire? On peut avoir des monocultures, des unités comme ces monolangues et tout ça. Est-ce que finalement c'est un problème ou pas? Parce que vu comment ça... Voilà, mais... Et donc, avec eux, on est arrivé vraiment à comprendre, je pense en tout cas pour nous, deux choses. C'est que vraiment, oui, effectivement, on peut choisir de tout éliminer et qu'il y a une seule espèce ou une seule qui prend le dessus. Ça va durer un certain temps, mais après, ça va se casser la figure. Et ça, c'est certain. Il y a vraiment besoin au niveau originel des autres. Donc qu'ils soient des autres humains, mais pour tout élément vivant, on a besoin de la diversité pour exister. Sinon, on crève. Et c'est assez étonnant, quoi, parce que donc c'est pas presque, ça peut être un choix pour un certain temps, mais si on voit dans la durabilité, et c'est pour ça que même aujourd'hui la question, climatique, environnementale, finalement c'est un problème pour les êtres humains, parce que la planète ou le vivant, il va évoluer, il va se transformer, il va continuer. Le problème climatique, il est par rapport aux hommes, parce qu'ils vont avoir, et on le voit déjà, un sacré souci en fait de survivance. Donc, enfin, voilà. Et donc les autres, les étrangers, ceux qu'on appelle les migrants, ces gens étranges qui arrivent, les différents de nous, qu'est-ce qu'ils nous font peur? Parce qu'ils prennent ça, ils prennent ça. En fait, en réalité, si on n'a pas eux, nous, on crève. Enfin, on a besoin vraiment des autres. Donc ça, c'est un peu vraiment le centre de Baraka.
Un sacré centre. Non, mais il fallait quand même avoir l'idée d'aller chercher toutes ces questions à Roscoff. Mmh. Vous êtes allé les chercher vachement loin quand même.
Ben, c'est aussi un peu parce qu'ils sont venus nous voir au départ, parce qu'on avait fait un petit festival à Brasparts, à la salle des fêtes.
On a organisé un mini-festival autour de 50 ans en fait, du coup d'État au Chili, au septembre dernier. Donc on a dédié 3 jours avec une série de films et documentaires.
C'est en 2023 ?
Oui.
C'est ça,
oui, 50 c'est ans. Ça, ouais. Et ces deux chercheurs en fait, étaient venus nous voir, et donc on a discuté avec eux. Et à partir de là est née l'idée en fait d'aller voir un peu ce qui se passait du côté de Roscoff.
C'est vrai que là ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement ils sont pas trop loin. Roscoff, il fait partie du paysage, si on veut, vraiment d'ici, de personnes, enfin en fait dans en Finistère, mais enfin il y a vraiment une concentration de personnes qui vont très très loin. Il y a parfois des liens à faire ou de se connecter, enfin c'est vraiment une maille aussi, encore une fois, qui est importante, parce que chacun est dans son propre secteur aussi de recherche, mais tout ça se touche, même ça va ensemble.
Alors j'imagine que vous avez dû collecter une quantité astronomique de choses. Comment on fait pour les intégrer dans un spectacle, et comment on fait pour intégrer donc des éléments visuels et chorégraphiques surtout dans un tel contexte, j'ai envie de dire?
C'est vrai qu'il y avait besoin, enfin, pour parler du vivant, c'est... Bon, moi, je danse, je suis danseuse, chorégraphe. Enfin, je crois, si on peut dire ça, je pense, en tout cas, que la danse, enfin, elle est quand même expression peut-être assez primordiale aussi, comme la musique, de la présence du vivant et de sa poésie aussi... Et donc, c'est tout naturellement, forcément, la danse prend une place en ça, mais aussi le dessin, et puis pas n'importe quel dessin, parce que là, avec nous, il y a Vincent Fortan, qui est...
Dessinateur belge, qui vit à Fiols actuellement dans les PO, et qui est un dessinateur qui dessine en live, en direct, depuis très longtemps, qui avait inventé une machine avec Christian Dubé, qui était éclairagiste et anciennement gardien de phare ouessantin. Une machine qu'ils ont appelée la cinémécanique, qui permettait de travailler la lumière, le dessin sous forme
directe
et plutôt via une pensée de graveur et qui était projetée.
Ça marche comment exactement? J'ai du mal à me représenter.
En fait, il y a deux choses. En tout cas, sur Baraka, il y a à la fois Vincent, il dessine vraiment dans l'espace, sous des supports papier, sous des supports divers,
comme peintre, là,
comme peintre. Et je dirais que ça aussi, c'est, enfin, la peinture, ça fait partie aussi des gestes des actions, enfin de l'homme qui va très loin dans le temps aussi, et qui peut exprimer beaucoup beaucoup de choses. Et après il passe dans ce geste assez primordial, il va justement à une table. C'est une table où il y a une vitre, il y a une caméra qui reprend le dessin avec toute une série de lumières qui sont après projetées. Donc il y a à la fois une action qui est vraiment celle de l'action directe, très matérielle, et une autre qui est plutôt de la construction et du presque aussi de la pensée, ouais, de la, et des, voilà, d'un espace qui est beaucoup plus abstrait. Donc il y a, voilà, sur scène avec nous, il y a aussi il y a d'une part les lumières magnifiques de Anna Genest, qui habite près de Rennes, et Jean-François Pauvros, qui est un grand
guitariste qui a un peu amené le free rock en fait en Europe, qui a maintenant 75 ans.
Ça se dit pas, ça.
Ça se dit pas, mais je le dis quand même, parce que c'est un monument qui a travaillé notamment dans, enfin, ou créé beaucoup de groupes, joué avec beaucoup de musiciens, notamment japonais, comme Keiji Aino ou américain comme Arto Lindsay. Aussi a eu deux groupes un peu majeurs qui étaient Catalogue et Marteau Rouge, qui étaient des groupes avant-gardistes, très très rock free, voilà.
Mais c'est vrai que question de tissage un peu. Bon, quand tu demandais Baraka comment elle est née aussi dans les constructions, c'est vrai que Alain et Jean-François, depuis un certain temps, ils travaillaient, ils venaient juste de terminer, déjà là, ils viennent juste de terminer
un album,
un vinyle, ils sorti un vinyle qui, je ne sais pas, c'est très étrangement ou de manière très connectée, il a à voir aussi avec ces questions-là. Mais
le titre, c'est Papillon de mer. Dont on ne savait pas au départ que ça existait. Mais ça existe.
Alors malheureusement, on va devoir s'arrêter là. C'est vraiment dommage parce qu'on avait des choses à vous faire écouter. On avait encore la baraque un petit peu expliquée. On n'aura malheureusement pas le temps. Alors moi, je vous invite les gens à passer sur le site de la radio pour pouvoir écouter les petits extraits que vous nous avez apportés. Et puis, je mettrai aussi un petit article sur la baraque, bien sûr. Et puis, évidemment, un lien pour renvoyer au site de Méharé parce que le site, il est incroyable. Il y a énormément d'informations. Allez-y, c'est une vraie mine d'or. Merci beaucoup. Emmanuel, Anneli, Alain, Maé, d'avoir participé à l'émission aujourd'hui.
Merci. Grand merci. Merci.